Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonjour à tous ou bonjour, merci d'être avec nous sur Radio Campus Bruxelles, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Et c'est la conspiration des planches qui démarre comme tous les mercredis 19h-19h30 ou le jeudi à 13h30 jusqu'à 14h. Une demi-heure pour faire le tour des créations théâtrales de la semaine. Une demi-heure critique évidemment, hein, avec plusieurs chroniqueurs autour de la table. On a Elisabeth, bonjour Elisabeth.
Bonjour, bonsoir.
Et Sophie également.
Salut.
On va en tout cas parler de cinéma un petit peu, hein, puisque Hitchcock est à l'actualité du public. On est allé le voir, Elisabeth et moi-même, les 39 marches. C'est à voir donc du côté du public. Et question de genre, ça se pose du côté des riches clercs avec une jeune création. Sophie est allée voir Hétéroquite. C'est bien ça, hein ? Voilà, ok. On va commencer tout de suite avec une des créations de la semaine. Il s'agit des 39 marches de John Buchan et Alfred Hitchcock, adapté ici en français par Gérald Sibleras, Elisabeth.
Voilà, alors en fait, c'est l'histoire d'une adaptation adaptable. et voilà. Oui. Puisque au départ, Les 39 marches, ben, c'est un roman de John Buchan qui date de 1915, donc ça nous remonte un petit peu loin dans le temps, mais finalement ça reste savoureux malgré tout. Et c'est un roman dont s'est emparé Sir Alfred Hitchcock en 1935-36, si je ne m'abuse, quelque part par là, qui est une œuvre qui a évidemment marqué les esprits, tellement marqué les esprits qu'elle a également été adaptée à la scène. Pas pour le public, puisqu'il y a une adaptation donc, qui existe de Gérard Sibleras, ouais, qui n'est pas tout à fait un inconnu au bataillon, puisqu'il a notamment signé plus ou moins le scénario, je ne sais plus quoi. Enfin, il était associé à l'aventure de Rabbi Jacob, qui était un film culte il y a en son temps. Ouais. Enfin, voilà. Donc, la question se pose, mais qu'est-ce que ça devient tout ça sur scène? Parce que c'est quand même un roman de haletant, c'est un suspect.
D'espionnage, hein, on est dans l'espionnage,
on
évidemment.
Est tout à fait ça. Donc, on voit les gabardines qui arrivent, on voit les belles blondes platines qui sont là aussi, puisque le rôle a été créé par une actrice qui était une des premières blondes du cinéma. Enfin, voilà. Comment ça se passe sur la scène, mais finalement très bien.
Ben oui, voilà, c'est pas mal du tout.
C'est sur la grande scène.
Dans la salle des voûtes. On y viendra,
ça, bien évidemment. Et donc on monte absolument 39 marches pour arriver dans cette salle. Et là, on est confronté à quatre comédiens qui jouent. Nico, combien de rôles?
Oh, on nous annonce 200, mais je les ai pas comptés. En tout cas, beaucoup, surtout pour deux d'entre eux.
Hein. Voilà, donc c'est deux duettistes, Gaëtan Lejeune et Marc Weiss, qui se transforme tantôt en butler, tantôt en tenancier d'hôtel, etc.
Écossais,
à l'accent liégeois. Mais bon. Voilà. Donc voilà, on a une option qui est très radicale, qui est prise pour le burlesque. Mm-hmm. C'est une option qui est tenue tout au long, qui est renforcée évidemment par la présence de ces duettistes. On a quand même un rôle titre qui est en fait incarné par Michelangelo
Marchese, voilà.
On va dire qu'il est tôt, mais quand même, qui lui finalement à la gabardine, hein, et qui est un peu celui par qui tout arrive et qui ne comprend pas très bien, qui est un peu dans la position du spectateur, il ne sait pas très bien ce qui lui arrive. Il y a une belle blonde là qui lui tombe dans les bras.
Pour poser un petit peu le décor, donc il est une espèce de dandy quarantenaire qui s'ennuie, hein, dans son club et dans son appartement londonien. Il est d'origine canadienne. Alors, voilà. Je ne sais pas si ça a une importance, un peu d'exotisme sans doute à l'époque, certainement, pour le monde
anglo-saxon. Certainement. Et puis ça renvoie aussi à l'histoire de l'auteur initial qui, lui, a eu un rôle très important au Canada. C'était le vice-roi du Canada.
Ah oui, carrément.
Ah oui, voilà, oui.
Et il rend rencontre à une soirée de théâtre, en fait, une belle Allemande, hein, un peu ténébreuse, comme ça, qui l'emmène chez lui et qui, dans la nuit, se fait assassiner. Et qu'il,
dans son salon,
juste avant, elle lui avait causé de certaines 39 marches. Voilà. Qui sont-elles? Quel escalier? Où cela mène-t-il? C'est un peu cela, sur cette piste, que va se lancer ce monsieur Annet, hein, Richard Annet.
Voilà, hein, voilà. Et cette piste mène tout droit en Écosse.
Oui.
Donc, ce qui est très exotique, évidemment, aussi. C'est très loin aussi. Il faut pas, faut se replacer tout de suite dans ce contexte anglo-saxon aussi, où c'est un peu comme si on passait de la Wallonie à la Flandre. Mais
est-ce qu'on retrouve le suspense?
Alors, le suspense, c'est un petit peu ce qu'il y a le moins.
Oui.
Parce que on n'a pas les mêmes ingrédients. Encore que la bande son vient un petit peu aider,
oui,
un peu le côté,
mais,
de la théâtralisation.
Mais elle joue sur le burlesque, évidemment, parce que c'est tous les ponts du genre, avec les aigus de violon qui sont tirés très fort, comme ça, pour donner un peu l'ambiance, avec un burlesque qui se fait aussi bien dans la répétition des dialogues que dans les gestes. On a une gestuelle très clownesque, hein, finalement. Voilà. On est dans le musical, presque.
On est dans le musical. Ben, on l'y est à un certain moment aussi, puisque ça fait partie aussi de l'intrigue, mais c'est aussi un jeu sur les codes. Donc, on a les codes du cinéma, on a les codes du théâtre de musical qui sont là. Et tout ça se mélange. On en sort aussi, puisque le burlesque permet ses entourloupes aussi. Tout d'un coup, on a les acteurs qui redeviennent eux-mêmes et qui se parlent de leur relation pendant les répétitions. Enfin bon, mais en même temps, ça se suit tout à fait.
On n'est pas perdu dans la multiplicité de personnages?
Non, pas du tout, parce que justement, les codes sont clairs, les costumes sont clairs. Et puis,
oui, il y a des changements de chapeau pour changer de personnage, parce que parfois, ça va très vite.
Hein.
Il y a une scène, notamment dans le train, là où ça change très vite, et c'est juste chapeau melon devient casque de Bobby, et puis casquette de vendeur de journaux. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se passent sur scène.
Et puis il faut se dire aussi que bon, on a évidemment une option théâtrale qui est très forte, qui est celle du burlesque, avec ce jeu aussi qui n'est pas un jeu psychologique, mais plutôt un jeu très physique aussi, très rythmé. Et puis on a une scénographie qui vient aider tout ça, une scénographie qui est quand même astucieuse par moment, puisque avec trois malles de voyage, on fait tantôt un train, tantôt une voiture, et tout ça. Donc en fait, en tant que spectateur, on n'est jamais tout à fait perdu, parce que ça va tellement vite que si on rate une marche, on rattrape la suivante.
Justement, il y en a 39.
Il y en a 39, on ne va pas vous dire à quoi ça correspond quand même, on va laisser un petit suspense. Mais donc voilà, c'est vraiment un spectacle qui roule. On voit aussi, je trouve que le spectateur est assez bien sollicité, parce que fatalement, comme on a les mâles qui nous servent de train, on doit, nous, avec notre imagination, refouiller dans notre mémoire cinématographique pour aller voir la scène dans laquelle c'est inspiré. Mais finalement, ça marche.
Ça construit vraiment des images.
Oui, ça construit des images. Il y a des images sur scène, mais il y a aussi des images mentales. Et ça, c'est sympa aussi. Et ce qui fait que ça compense, en fait, le fait qu'on n'est pas pris dans le suspense et dans l'histoire. Ça devient un peu secondaire.
La salle des voûtes amène évidemment aussi une mise en scène tout en longueur. Hein. On est le public est sur trois côtés, hein, de la scène. Ouais. On entoure vraiment cette bande scénique qui est mise au milieu de nous. Alors le problème, c'est pas tellement ça. C'est la salle des voûtes avec ces fameuses colonnes qui nous empêchent de voir certaines choses et qui nous empêchent aussi parfois d'apprécier, justement tout ce jeu scénique sur la longueur. Bon, c'est un petit défaut. Peut-être que dans une autre salle, ça serait
je pense que c'est un spectacle qui gagnerait effectivement à avoir un petit peu plus d'espace. Bon, c'est vrai qu'il y a une énorme proximité aussi, mais c'est vrai que ça permet à la fois de goûter aussi de toute la dynamique du jeu, parce que c'est vraiment un jeu très dynamique. Mais il y a des moments aussi où on doit s'accrocher pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la scène. Et voilà. Mais bon, c'est quand même
un spectacle plaisant, de deux heures.
De deux heures quand même, mais bon, ça va, hein, pas, ça rince la tête, c'est un divertissement de bon goût et une belle réussite d'adaptation adaptable.
Et on a le temps d'aller le voir, parce qu'au public, ça dure toujours longtemps.
On a le temps d'aller le voir, puisque c'est jusqu'au 31 mars, donc ne vous bousculez pas, mais quand même, n'hésitez pas à gravir ces marches, elles sont sympas.
Les 39 marches donc de John Buchan et Alfred Hitchcock, www.lepublic.be pour tous les renseignements. Direction Les Riches Clairs maintenant avec Hétéroquite.
Les Riches Clairs avec Hétéroquite de Yann Mercanton. Et là, c'est une belle transition parce que c'est aussi un spectacle avec beaucoup de rôles et une scénographie simple mais qui marche bien. Donc la bonne petite transition que j'attendais. Donc c'est Yann Mercanton qui avait été remarqué il y a déjà quelques années avec Les Petites Fêlures et Microfiction, qui écrit, met en scène et interprète ce spectacle. Alors, le titre le dit, Hétéroquite, on sait qu'on va tout de suite être dans un univers de genre, donc on est dans l'univers gay, lesbien, transgenre, et c'est une comédie, bien sûr, un seul en scène, on est vraiment limite dans le stand-up, et ça se passe dans la petite salle des Riches Clairs, donc il y a un côté... Très de proximité, voilà, il y a une cinquantaine de places, donc il reste peu de soirs où il y a encore de la place,
ça se remplit très public, vite. Oui. Ça,
voilà, est-ce que si on n'est pas transgenre, on rigole quand même.
Tout à fait, parce que j'étais très surprise de voir le public qui était là quand j'y suis allée ce lundi, et c'était pas du tout le public auquel je m'attendais, donc c'est vraiment pour tout le monde. Après, évidemment, si on connaît un peu les anecdotes du milieu, il y a certaines choses qu'on va mieux comprendre,
mais de quoi ça cause de scènes quotidiennes, de la confrontation des genres.
Alors oui, ça parle aussi évidemment du couple, de la sexualité, de l'homoparentalité et de l'amour. On est dans quelque chose de très léger, hein, c'est pas pour refaire le monde, on n'apprendra pas grand chose. En fait, c'est l'histoire de François, un jeune Suisse chômeur gay qui va nous raconter ce qui lui est arrivé. Et pour nous raconter toutes ces anecdotes, il va se mettre dans la peau de différents personnages. Voilà, donc il est en couple depuis 7 ans avec son ami Claude, un fan de patinage artistique.
Là aussi, le cap des 7 ans.
Oui, là aussi, et oui, finalement, même entre hommes. Donc voilà, son ami qui est limite raciste, égocentrique. Petit à petit, il va ressentir une attirance pour sa conseillère emploi, étant donné qu'il est chômeur. Et voilà, il se rend compte qu'il devient hétéro et qu'en fait, il va essayer de faire son coming in. Donc lui, qui n'avait jamais touché une femme, il va aller voir tout son entourage et essayer de
se faire
tout
son kit d'hétéro, finalement.
Exactement, voilà. Et il nous entraîne dans différentes situations, hein, avec son copain, compagnon, bien sûr, sa mère, l'ami, fille à PD, un peu coincée. C'est la copine lesbienne, sapeur-pompière, le club lesbien de tricot, l'ami viril mais qui est bi et qui va lui donner des conseils sur comment séduire une femme, etc. etc. Donc, ce sont des situations assez rocambolesques, mais il va vraiment dans la caricature des personnages, mais par cette caricature, finalement, dans des petites phrases anodines, parce que le texte est vraiment très bien, il va quand même nous faire... Il va souligner beaucoup de choses sur notre société, finalement.
Et est-ce qu'il a le job à la fin?
Ce n'est pas vraiment le but. Mais par contre, oui, il y aura un rendez-vous avec sa conseillère emploi. Voilà. Et en fait, pour passer d'un rôle à l'autre, il s'habille vraiment de peu. Ici aussi, il y a une utilisation de chapeau, retournement de chapeau pour switcher d'un personnage à un autre. Une perruque, un accent. Il travaille beaucoup sur les accents. Alors bon, au début... Après, il faut voir si c'est d'une représentation à l'autre. Mais au début, on a un peu de mal à entrer dedans parce qu'il se perd un peu d'un personnage à l'autre. Ce n'est pas toujours très clair comme situation. Il passe d'un accent suisse à un accent québécois dans la même situation.
Pas liégeois.
Donc, non, pas liégeois. L'auteur, Yann Mercanton, il est belgo-suisse. Oui. Et d'ailleurs, c'est assez plaisant d'entendre un accent suisse parce qu'on n'a pas souvent cette habitude.
C'est vrai, parce qu'il y a apparemment une rage d'accent liégeois sur les scènes bruxelloises.
Mais pas ici, en fait. Mais donc il habille ses personnages aussi principalement d'accent. Et parfois, c'est pas parfait. Et parfois, ça marche très bien. Et au fur et à mesure de l'avancée dans le spectacle, qui dure seulement 1h15, donc ça va très vite, il y a quand même une évolution. Et là, il est vraiment en phase avec ses différents personnages. Voilà. Et le texte est très drôle. Il y a énormément de jeux de mots, certains faciles et d'autres qui sont vraiment de petites perles qui font mouche.
C'est donc Hétéroquite de Yann Mercanton, c'est ça?
De Yann Mercanton, et... à voir au Riche Claire, donc jusqu'au 18 février, et les infos sur lesricheclaire.be.
La conspiration.
De retour dans La conspiration des planches, Sophie est toujours là.
Eh oui.
Voilà. Et on va retrouver par téléphone notre amie Nurten. Bonjour Nurten.
Bonjour tout le monde.
Alors, on prend la direction avec toi du Caille Théâtre pour un spectacle de Gisèle Vienne.
Oui, alors l'OVNI, hein. Moi je vous parle que d'OVNI, pour l'instant je ne sais pas, je me les colle. Alors c'est This is how you will disappear, c'est Gisèle Vienne qui n'est pas anglaise ni américaine, mais bien franco-autrichienne, uh-huh. Et elle habite à Paris, elle a à peine 38 ans, et c'est vraiment une artiste polymorphe. Juste un mot, par exemple, elle s'est formée à l'art de la marionnette, hein, de la marionnette et du mannequin, et puis on la voit, pas errer, mais travailler dans le domaine de la chorégraphie, de la mise en scène, de l'installation. On la trouve tantôt dans des galeries d'art, tantôt sur la scène. Elle est vraiment très atypique. Alors ce spectacle-là, je l'avais vu à sa création il y a quelques années à Avignon. Et on retrouve tous ces éléments, danse, théâtre, installation. Première chose qui frappe les esprits, c'est qu'on est en face d'un décor, si on peut appeler ça d'un décor, d'une vraie forêt hyper naturaliste, ce sont des vrais arts, c'est
ah oui,
y a tout un art
c'est pas
savant.
Du plastique.
Non, il y a tout un art savant de la brume dans la forêt, c'est con à dire, hein, mais voilà, c'est signé d'un japonais, moi ça ne m'a pas étonné. Donc il y a un immense travail hyper réaliste de cette forêt, on a l'impression que c'est le personnage principal, mais non, mais en tout cas, c'est une personnalité forte du spectacle. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Elle va intégrer trois figures. Alors trois figures étonnantes, il y a une athlète, une espèce à la allemande, à la Leni Riefenstahl, son entraîneur en jogging pimpant, et là va débarquer une espèce de rockstar androgyne. Donc vous voyez déjà l'univers de Gisèle Vienne, elle ne s'en cache pas, son trip c'est, on va dire, de David Lynch, Tarantino, à Caspar Friedrich, les romantiques allemands, donc on voit, elle brasse large, elle travaille souvent avec un auteur qui s'appelle Dennis Cooper, un peu écriture un peu punk, on va dire, et ici il y a très peu de mots, on est vraiment, je l'ai eu au téléphone, elle disait voilà, ce spectacle est très wagnérien, ces personnages-là sont des figures contemporaines qu'on rencontre ici dans notre culture pop, on va dire. Et qu'est-ce qui se passe? Tout doucement, l'entraîneur est en une espèce de quête existentielle dans cette forêt, et il va rencontrer ce personnage androgyne, et là, il va se découvrir des pulsions, on va dire, sauvages. Mais il n'y a rien de nerveux, rien de trash. Elle disait une phrase très juste qui m'a frappée. Elle disait « L'art doit remplir cette fonction païenne de mise en scène de l'horreur. » Ça, c'est Gisèle Vienne pour ses tripes. Ici, elle interroge avec ce spectacle, en fait, tout ce qui est dans les peurs. Parce qu'on sent une étrangeté, on ne sait pas ce qui se passe, on comprend qu'il y a un meurtre quelque part, il y a une transformation des personnages. Et en plus, comme un leitmotiv, il y a cet athlète, hein, qui est nickel, qui est forte, elle te fait le grand écart, elle bouge dans tous les sens. Et à côté de ça, il y a le rocker qui se la joue un peu à la Kurt Cobain. Et elle voulait voir les deux extrêmes de beauté et deux extrêmes de pipolisation de notre époque. Et donc, elle voulait interroger les peurs, cette attirance qu'on a pour l'effrayant, les faits divers, le crime, là, dans la forêt. Et en même temps, questionner les perceptions qu'on peut avoir des gens.
C'est pas pour rien, justement, au niveau des peurs, qu'elle interroge l'œuvre de David Lynch, Lewis Carroll également, Anna Robbe-Grillet. C'est vraiment des univers très, très évaporés, hein, comme ça. Hein. Et c'est vraiment un univers de plasticienne, ou en tout cas dans lequel une plasticienne peut s'amuser.
Et justement, donc, dans ce décor hyper naturaliste de la forêt, on est clairement dans l'art romantique, hein, où les tensions internes se reflètent dans le paysage. Donc le paysage va évoluer entre la brume, on est dans des clairs-obscurs, dans des lumières très différentes. Il y a un travail hyper ciselé dans le décor. Moi, je l'ai reçu et elle dit, bon, c'est romantique, donc c'est un spectacle contemplatif. On rentre dedans. Pour la petite histoire, ça m'a frappé parce que je ne l'oublierai jamais. À Avignon, donc dans la chaleur de la salle et tout ce qu'on veut, il y a un spectateur qui dit « Dennis Cooper, arrête d'écrire, va plutôt faire des hosties ». Ça, c'est les quelques mots de l'écrivain. Il fallait qu'il se fasse égrener à Avignon. Ça m'a frappé parce que voilà, le texte est très pauvre, très petit. C'était même pas nécessaire. mais il y a une atmosphère de contemplation. On sent vraiment la brume, le clair-obscur. Ceux qui ont aimé le projet Blair Witch, par exemple, mais ici, beaucoup plus lent, évidemment, on est dans une douceur, vont apprécier. Alors, je signale, malheureusement, donc c'est jeudi et vendredi. Jeudi, c'est liste d'attente et il reste les derniers billets vendredi. Voilà, c'est un ovni. Alors, Gisèle Vienne, elle vient souvent sur la scène flamande, jamais sur la scène francophone. C'est un objet scénique à saisir.
C'est à voir au CAI, donc,
au CAI Théâtre, cette semaine. Ouais.
Alors oui, c'est donc à voir
jusqu'à
ce vendredi, donc caïtheater.com.
Oui,
bien sûr, évidemment, on ne t'a pas oublié, ma chère Nureté. Karstorff qui nous vient aussi avec un spectacle qui a été créé à Paris, hein, je crois,
ouais.
Et qui nous vient avec sa Dame aux Camélias.
Voilà, alors une Dame aux Camélias trash. Dame aux Camélias, on va dire, c'est un peu la Traviata de Verdi. Une courtisane qui a une maladie grave a été prise d'un bourgeois. Ils vont essayer de vivre une relation, mais le père du bourgeois, évidemment, ne veut pas de cette putain, on va dire. Et donc, voilà, elle va se sacrifier et elle va mourir, etc., etc. La Dame aux Camélias, écrite en 1848, Karstorff la met apparemment dans une favela à Pigalle, on va dire, dans
ah
ce
oui.
trip-là. Il mélange, accrochez-vous, l'œil de bataille et la mission d'Ainer Müller, et il en fait apparemment un truc assez crade, assez rentre-dedans. D'ailleurs, c'est interdit au moins de 16 ans. C'est rare quand un spectacle est interdit au moins de 16 ans. Donc voilà, j'ai un peu... Le spectacle est controversé, d'abord parce qu'il dure 3h45, deuxièmement parce que certains trouvent que c'est du branlage de neurones, masturbation intellectuelle, d'autres trouvent que c'est cuculapraline. Donc il y a un peu de tout, apparemment ça divise énormément les gens.
Moi, c'est peut-être ça qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir et de se faire son
opinion.
Écoute,
3h45, franchement c'est hard, mais apparemment, moi j'ai vu, bon, aux photos on ne s'est pas vraiment jugé, il y a quelque chose de baroque avec beaucoup d'images vidéo. Moi je lisais la critique de Brigitte Salino du Monde, et elle disait, voilà, c'est un sacré spectacle et intéressant. Il faut un effort du spectateur. Elle disait que par exemple, elle racontait que le personnage principal, donc la femme, meurt dans un poulailler. Ça vous donne déjà l'atmosphère. Jeanne Balibar qui joue là-dedans représente l'ange de la mort, et elle dit, Brigitte Salino du Monde, la Dame aux Camélias ne se refuse rien. Il y a même des images de Berlusconi et de Kadhafi. Donc il y a, bon, Franz Karstorff vient de l'Allemagne de l'Est, hein, donc il y a toujours ce rapport. Et puis c'est un homme, je ne sais pas, peut-être plus de 50 temps. Donc c'est un homme qui a encore l'engagement politique des anciens metteurs en scène de théâtre. Il a apparemment souvent été censuré. Nous, on l'a vu 2-3 fois au CAI encore, avec le Kunsten Festival, je crois. Franz Karstorff fait partie de cette ville en scène initiée par le Théâtre National. Bon, on le dit provoquant, iconoclaste, il a été censuré plusieurs fois.
Contre-culture, voilà. Aussi, à l'époque. Hein.
Voilà. Mais on va voir, on va tenter les 3h45. C'est
mais
ce qu'on nous dit.
Pas.
On nous dit, vous inquiétez pas, il y a un entraque, vous pouvez partir. Moi, je me dis, voilà, il y a dimanche, c'est à 15h, il y a moyen de se préparer et vivre cette curieuse traversée de mœurs, hein, on va
ça,
dire.
Ça doit être aussi intéressant de voir la différence entre un texte qui est quand même très ancien et, j'imagine, une mise en scène relativement moderne.
Ben oui, apparemment, il a fait La Dame aux Camélias, donc 19e, on te met toujours des décors au flonflon et tout ce qu'on veut. Et ici, il prend une tournette. Alors, une tournette au théâtre, il faut savoir, ce sont les plateaux qui tournent, vous voyez, comme dans Murgia, là où ça tourne.
Oui, bien
ça tourne,
sûr, dans Exil.
Et là, il en fait un truc à Pigalle. Moi, quand j'ai vu les photos sur le net, mais encore, bon, les photos, faut prendre ça avec attention. Moi, j'ai pensé à ces fameux costumes d'opéra où on est encore dans l'ancien, on n'est pas en costard-cravate ou habit de tous les jours, donc on est dans des tenues qui font un peu à l'ancienne et dans une forme de structure, on va dire, de décor moderne, c'est-à-dire il y a un gros plan en vidéo, on les voit à un moment donné tous dans des perruques à l'ancienne, mais enfermés dans un box de 2-3 mètres carrés. Donc, vous voyez, ça joue sur l'ancien. Et le contemporain qui fait que 3h45 d'office, ça va être un voyage un peu fou qui me demande du temps aux spectateurs. Il faut arrêter de croire que les spectacles sont faciles. Il y a quand même des spectateurs à faire un effort.
Tout à fait. Le théâtre est une expérience en soi. On ne cesse de le rappeler ici. La Dame aux Camélias, donc, d'après Alexandre Dumas, fils, et avec des textes de Georges Bataille et Ainer Müller, c'est une mise en scène de Franz Karstorff, à voir du 10 au 15 février prochainement. Quelques petites annonces également. Le Murmure des Murs de Victoria Thierry-Chaplin. C'est à découvrir au Volubilis, un un univers aussi enchanteur, rêveur. Hein. On est vraiment dans une mise en scène peuplée de fantômes, de choses tout à fait sorties tout droit de l'imaginaire. Une certaine féerie s'installe. On est entre cirque, illusion et acrobatie dans ce spectacle qui est annoncé comme une grande bouffée d'air poétique. C'est à voir en tout cas du côté du Volubilis. Autre chose encore à vous rappeler, c'est que ce week-end, c'est quand même le festival Vrac. On vous en a parlé longuement la semaine dernière. Et si vous voulez vous faire une idée sur l'ambiance de ce festival, n'hésitez pas à aller réécouter notre émission de la semaine dernière. Je crois qu'on a fait le tour de nos créations. Merci Nurten.
Oui, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci à Sophie également pour cette émission. On va se quitter ici pour la conspiration des planches. Et on reviendra bien sûr la semaine prochaine avec de nouvelles créations. Très bonne semaine à vous. Et n'oubliez pas aussi que le podcast de cette émission, c'est sur demandelprogramme.be et dans le centre de ressources de la Bellonne. À bientôt. La conspiration. Constelación.